C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
L'imaginaire, l'étrange, l'horreur et l'inusité.
Queer Côté Geek avec Philippe Aubert Côté.
Salut, salut Philippe Aubert Côté, comment ça va?
Ça va bien. Je pensais que j'allais avoir le droit à une chanson d'Astro le petit robot, moi, pour
j'ai manqué un peu de temps pour préparer tout ça, mais j'y ai pensé. Alors, donc, on va parler de manga queer aujourd'hui.
Ouais, de manga queer.
Alors, explique-nous.
Ben, pourquoi les mangas? D'abord, on a chaque génération a une icône japonaise. Hein?
Ouais.
De même, tu sais, les baby boomers, ça a souvent été Godzilla ou Ultraman. Oui. C'était le coup de cœur de ma marraine, d'ailleurs.
Ultraman, oui.
Exact. Il y a la génération X qui a beaucoup connu Goldorak, hein, oui. Le robot géant. Moi, la mienne, c'était Astro, le petit robot, là, qui était présenté à Radio-Canada avec un concours pour gagner un voyage au Japon.
Puis t'as participé, c'est clair, hein?
Pardon?
T'as participé, c'est clair, hein?
Je savais même pas comment on envoyait une lettre à la poste à l'époque, donc...
De nos jours, ils savent même pas c'est quoi la poste. Donc,
autre génération. Ouais. Puis il y a la génération Z, ben là, qui en a connu plusieurs, mais là, on va passer aux Pokémon, qui ont fêté leurs 30 ans.
Quand même.
Ah oui, puis c'est mignon. D'ailleurs, mon chum et moi, on a plein de Pokémon à la maison.
Pourquoi ça m'étonne pas?
Je sais pas pourquoi, mais il faut pas trop que je dise qu'on a beaucoup de Pokémon parce qu'on a peur de se les faire voler. Ils sont tellement mignons. on les garde pour nous. Hein.
D'accord.
Donc, tu sais, on a tous eu au Québec, à chaque génération, un contact avec la culture japonaise. Puis aujourd'hui, ben, le manga, que ce soit la bande dessinée ou l'animation, c'est partout. Hein. Même si je veux entrer en contact avec quelqu'un que je ne connais pas, peu importe l'ethnie ou l'âge, souvent je me mets à parler manga, qu'est-ce que tu lis, tout ça. Puis ça marche, on fait des contacts facilement...
Ça.
Mais donc, c'est partout. Et ce qui est intéressant, c'est que les mangas, ben, c'est pas juste des choses pour enfants. Ça peut aussi aborder des réalités queer. Et là, je m'étais dit que ça valait la peine de faire une chronique là-dessus aujourd'hui.
OK. Bon, alors, c'est quoi le manga?
D'abord, c'est
Qu'est-ce que ça mange en hiver?
Donc, le manga, c'est comme ça qu'on appelle la bande dessinée au Japon. Ça peut aussi servir à désigner les films d'animation. Donc, séries ou films tout court. Ceux et celles qui dessinent des mangas, on les appelle des mangaka. Je risquerais d'échapper le mot des fois dans l'entrevue, donc autant le définir tout de suite. Mais c'est aussi une esthétique, le manga. Alors, quand on voit un dessin animé ou une BD japonaise, c'est, on va tout de suite reconnaître des personnages avec des grands yeux mouillés.
Oui.
Hein, très expressifs, hein, qui sont très bien travaillés. Ça va être des personnages avec des traits très épurés aussi. Là, pas beaucoup de détails pour qu'on puisse s'identifier facilement à eux. Hein? Ça va être aussi, pour les puristes, un sens de lecture des cases de droite à gauche, qui est à l'envers de ce qu'on lit en Occident. Ça a l'air très difficile au début, mais on s'y habitue, hein? Puis ça devient une seconde nature. Les mangas vont aussi avoir des intrigues très complexes, très étoffées, où même les antagonistes ont le droit à leur histoire, à leur background. Donc, des fois, la dichotomie bon versus méchant qu'on voit dans les récits occidentaux est un petit peu brouillée, là, ce qui peut dérouter certaines personnes. Puis, dans les mangas, moi, ce que je trouve fascinant, c'est le mélange de genres. Hein? On peut retrouver dans la même histoire du sexe, de l'horreur, du rire, de l'émotion, de l'exubérance, du calme, de la violence, dans le même récit, et ça marche. Alors que des fois, on a tendance à séparer ça en Occident, à dire que ça se mélange pas.
Alors, les mangas, ça a beaucoup dérangé?
Oui, à l'époque de Goldorak, justement, que tu as connu, c'est quand c'est qu'on a commencé à diffuser ces dessins animés-là en Occident, surtout en France. Mais là, ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est qu'au Japon, les films d'animation, on ne les considère pas comme étant strictement réservés à la jeunesse. Il y a des longs-métrages animés qui sont pour les adultes, qui vont raconter des histoires policières ou de mœurs ou autres. Il peut y avoir de la violence et de la nudité aussi dans les mangas, parce que la relation à la violence et à la nudité n'est pas la même qu'en Occident. Donc, il y a des mangas qui étaient pour les adultes ou les adolescents matures qui ont été diffusés auprès du grand public sans cérémonie, puis on le savait pas, et ça a traumatisé. Même Astro, le petit robot, la version qu'on avait ici était édulcorée, remontée pour gommer certaines scènes. Moi, adulte, j'ai redécouvert la version originale en DVD, telle qu'elle avait été faite au Japon, et le dernier épisode m'a traumatisé.
Ah oui, pourquoi?
Je refuse d'en parler.
Ah oui? Bon, OK. Alors, peut-être que les gens vont devoir nous écrire pour savoir. On va faire une pétition.
Il va falloir me payer cher.
OK. Donc, on continue. Les mangas, donc, la sexualité, tout est là-dedans, là.
Tout est là-dedans. C'est que il y a... Et ce qu'il faut savoir, c'est que au Japon, la nudité, la sexualité, la violence sont pas perçues de la même façon qu'ici. Il y a pas... Ça a jamais été condamné comme en Occident. parce que dans les religions japonaises, il n'y a pas de péché originel qui nous dit que le sexe est mal, tout ça. Donc, dans les récits japonais, romans ou mangas, on a abordé ces dimensions-là très tôt. Et
Donc, allons-y, le phénomène queer dans les mangas.
Oui, c'est que au Japon, les relations homosexuelles ne sont pas condamnées avec la même véhémence qu'en Occident.
Ouais.
Et donc, très tôt, dans les années même 50-60, on a commencé à aborder des histoires homoromantiques dans les mangas. T'sais, à l'époque où on sortait de la grande noirceur, nous, on commençait à montrer des personnages gays ou lesbiens dans les mangas au Japon, ce qui est quand même assez intéressant. Donc, il y en a plusieurs catégories qui existent. Je vais utiliser certains termes, des fois, qui sont un peu controversés, là, des fois qu'on veut remettre en question aujourd'hui. Mais si je vais les employer, c'est parce que c'est ceux qu'on retrouve le plus en librairie. Donc, si notre auditoire veut s'y retrouver, c'est ceux qu'il faut employer.
Ouais.
Donc, vous allez avoir dans les mangas qui sont purement érotiques d'abord, ce qu'on appelle le hentai, donc H-E-N-T-A-I,
ouais.
Je vais l'appeler pour être sûr. Donc, ça, ce sont les mangas pornographiques classiques, souvent hétéros.
Okay.
Il peut y avoir des choses très bizarres là-dedans. Donc, je ne l'aborderai pas aujourd'hui parce que c'est plus bon hétérosexuel.
Et puis c'est bizarre.
Et c'est très bizarre. Il y a des trucs avec des tentacules là-dedans. Là, on va en parler tantôt.
Ouais.
Du côté queer, on a deux sortes fondamentales de manga. Le boys love et le girls love.
Okay.
Donc, le boys love et le girls love représentent des intrigues qui sont soit homo-romantiques ou homo-érotiques, mais il y avait une très grande diversité de thèmes et d'approches pour raconter ces histoires-là. Des fois, dans certaines œuvres, la sexualité peut être complètement absente.
Mm.
Et des fois, on peut aborder des termes légers ou on peut aborder des termes plus graves, comme la coercition ou l'intimidation, des choses qui dérangent aussi. Donc, on va l'aborder aussi sans problème. Donc, comme ça le dit, le girl's love va surtout raconter des histoires d'amour ou érotique entre femmes et le boy's love, c'est entre hommes.
Ouais. Alors, toi, tu vas t'intéresser au boy's love.
Oui, au boy's love. Le girl's love est très intéressant, mais écoutez, il nous faudrait une deuxième chronique pour en parler. C'est un domaine en soi. Puis c'est sûr qu'on peut comprendre mon bien. Je connais plus le boy's love. Évidemment.
Ah oui, tu m'étonnes.
J'ai un petit biais. Mais aussi, c'est parce que le boys love a une histoire très intéressante. Ça serait à cause du féminisme japonais que ce genre-là aurait émergé.
Ah ben.
Ce qui est complètement contre-intuitif. Mais... Ouais.
Bon, alors, quelle sorte de boys love on va trouver dans les mangas?
Il y en a... Moi, je vais en décrire ici quatre catégories. C'est un petit peu ad hoc pour qu'on se retrouve. Donc, je vais les énumérer, puis je vais y revenir après. Donc, il y a le yaoi, le bara, le manga didactique et ce que j'appelle les bizarreries. Là, les tentacules, on risque de les croiser là.
OK. Okay.
Donc, la première catégorie de boys love dont je vais parler, c'est le yaoi, donc Y-A-O-I. Ce sont des histoires d'amour entre hommes, mais qui sont souvent écrites par des femmes et destinées à un public féminin.
Ouais, c'est pas étonnant. Il y a beaucoup de romances gays entre hommes. Écrites aux États-Unis, qui sont écrites par des femmes et qui sont lues par des femmes.
Exact. Donc ça, c'est la caractéristique du yaoi. Mm-hmm. Les histoires vont être très romantiques, souvent longues, elles vont être très tortueuses aussi au niveau de l'intrigue. Ça va être très psychologique. On peut comparer ça, les yaoi les plus cheap, ça peut être comme des romans arlequins. Mais certains vont se rapprocher des grands films d'amour là, qui ont eu des Oscars aussi. Le degré d'érotisme, ça peut varier. Il y a certains yaoi qui n'en ont pas, mais du tout. Puis quand tu as des scènes de sexe là-dedans, ça va peut-être plus se rapprocher du soft porn, comme on dit, où deux hommes vont faire l'amour, mais on voit pas grand-chose, puis souvent on va censurer les sexes.
Ah.
On va les effacer pour laisser des zones blanches vides, pour laisser imaginer de même. Donc,
oui, j'ai déjà vu des vidéos justement où ils mettent des petits. Ils vont pixeliser l'endroit où se trouve le sexe.
Exact, ça revient à ça. Ça c'est enraciné dans les lois japonaises. En tout cas, il y a toute une explication là-dessus, mais souvent, c'est pas là qu'on va voir des choses extraordinaires. T'sais, c'est tout dans le non-dit. Souvent, l'intrigue va tourner aussi autour d'une relation entre deux hommes. Normalement, un qui va être plus fort et viril, puis un autre qui est plus faible. Mmh. Puis les hommes vont être minces, ça va être sans pilosité, très élancé, souvent des effets, même un peu. Et un avertissement, les intrigues dans les yaoi vont souvent avoir une ou deux scènes de sexualité non consensuelle parce qu'un des tropes, des clichés des intrigues yaoi, c'est qu'il y a un personnage qui est coincé dans sa sexualité puis il va se faire réveiller à son côté gay par un initiateur qui est plus viril.
Allô, la culture du viol, hein?
Exactement.
Ouais. Donc, et le consentement, oui.
Et voilà. T'sais, donc, il faut être prêt à voir ça. Donc, tout ça, il y a toutes sortes d'intrigues. Ça peut être des intrigues purement amoureuses, mais ça peut être des intrigues aussi policières.
Mm-hmm.
Moi, j'ai un exemple qui me vient en tête, un yaoi qui s'appelle Réminiscence, que ça raconte la vengeance sexuelle d'un salaryman contre son ancien bouli.
Okay.
Par exemple, donc on peut aller dans les trucs plus policiers. Souvent, les gays vont ne pas se reconnaître dans le yaoi. Ils disent eux-mêmes, très peu de gays, il y en a qui vont lire les yaoi, mais très peu, c'est beaucoup plus un public féminin. Donc, ils trouvent pas, beaucoup de personnes gays trouvent que ça ne décrit pas très bien les réalités de la communauté gay. Mm-hmm. Et une des théories pour expliquer ça, c'est peut-être parce que le yaoi, ça représente... En fait, c'est une métaphore de la condition féminine au Japon. Donc, je disais que le féminisme japonais avait peut-être fait émerger ça. C'est des autrices qui écrivent des intrigues pour des femmes, donc qui vont peut-être aborder, par le biais d'histoires entre hommes, ce qui arrive aux femmes.
OK. Fait. Je t'écoute.
Oui, donc ensuite, on a un des mangas plus destinés aux hommes gays,
ouais.
Qui est le Bara. Donc, ce sont des mangas réalisés par des dessinateurs gays et destinés à un public gay, un peu. Il y en a qui n'aiment pas le terme Bara parce que ça serait une injure au Japon, là. C'est parce que ça veut dire rose en japonais et c'était une façon de surnommer les gays. Et c'est qu'il y a un magazine qui est apparu dans les années 70 qui reprenait le terme pour tenter de lui donner une connotation positive, mais ça n'a pas été le cas. Les Japonais l'ont abandonné, mais c'est imposé en Occident. Donc, certains préfèrent parler de manga gay.
Okay.
Et dans le Bara, on va rencontrer des hommes là beaucoup plus virils, poilus. Il y a la diversité corporelle. On est loin des effets que dans le yaoi. Les intrigues vont être plus directes, plus crues. Aussi, des fois, c'est une historiette qui dure quelques pages. Les scènes de relations sexuelles vont être beaucoup plus explicites. Tu vas retrouver du BDSM, des scènes de cocaïne, de l'humiliation. Là, on va tout trouver là-dedans. Donc, c'est comme beaucoup plus direct. Et le lectorat masculin peut peut-être s'exciter avec un bara beaucoup plus facilement qu'avec un yaoi. Mais souvent, les intrigues sont tournées d'une façon qu'on lit autre chose. C'est plus un exutoire de même. Donc, même si c'est très explicite, des fois, on peut rester loin de la pornographie.
OK. Est-ce qu'on peut aller, parce que le temps commence à aller, là. Manga didactique.
Ouais, ça, c'est une petite catégorie intéressante. Ce sont des mangas qui vont aborder plusieurs aspects des communautés queer à travers des intrigues psychologiques dénuées de sexualité. Et on s'adresse avant tout aux hétérosexuels qui veulent en apprendre sur la communauté gay.
Ah bon?
C'est fait avec bienveillance. On est loin de l'attitude, on va vous éduquer. Donc, c'est des histoires très psychologiques. Puis des fois, entre les chapitres, on a des petites capsules documentaires qui nous disent d'où vient le drapeau gay, qui nous explicitent certaines pans de l'histoire gay, etc., etc.
Okay.
Donc, une suggestion de manga didactique, Le mari de mon frère, de Gengoro Tagame. Précipitez-vous là-dessus, là, c'est un très bon exemple du genre.
Les bizarreries.
Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'art érotique japonais, souvent on va trouver des monstres ou des hybrides humains-animaux qui ont une sexualité. Ça remonte à l'Antiquité, cette représentation-là. Mais les BDistes japonais, s'en sont emparés puis l'ont sexualisé. Donc, vous allez avoir toutes sortes de monstres, des fois, qui vont pouvoir interagir avec des êtres humains. Je pense à un manga, par exemple, où on nous racontait l'histoire d'un soldat qui est perdu en forêt et la forêt lui fait l'amour.
Oh!
Je vous laisse imaginer c'est quoi.
Ouais, les troncs d'arbres.
Pas juste ça. Pas juste ça.
Et autre petite anecdote, OVNI, on a dit, ouais.
Ouais, c'est qu'on a aussi dans les... ce que j'appelle des OVNI, il y a un manga qui s'appelle, excusez-moi en anglais, De Sommaire Hikaru Died. Mm-hmm. Ça, c'est une métaphore des amours entre adolescents. Il y a deux amis et l'un des deux, Hikaru, a disparu en montagne et est revenu. Et là, son meilleur ami se rend compte que Hikaru, ce n'est plus Hikaru, c'est un monstre qui a pris sa peau et qui s'est mêlé aux êtres humains pour mieux les connaître. Mais lui, il sait que c'est un monstre, puis il dit « Je sais que t'es pas Hikaru, de même. » Et là, il y a une relation amoureuse qui se développe entre les deux. Il y a Netflix qui en livre une adaptation animée en ce moment, qui est très intéressante. C'est très spécial, mais c'est une métaphore de la découverte de l'amour à l'adolescence.
On conclut? Ça.
On conclut. Quelques conseils. Si vous voulez explorer le monde du manga queer, moi, je vous donne un conseil. Allez toujours les acheter en librairie auprès d'éditeurs officiels ou dans des événements. Si vous êtes à Montréal, je recommande Planète BD, Librairie Z. Mm-hmm. Si vous êtes à Québec, la librairie Pantoute a une super section manga. Sinon, à Montréal, dans les événements, vous avez le Takuton, gros festival d'animation et de manga japonais qui se tient pendant la Fierté et qui offre des programmations consacrées exclusivement au yaoi et au yuri.
Merci beaucoup. On va aller chercher des Pokémon.
Ouais, faut que j'aille les nourrir d'ailleurs, c'est l'heure.